C'est l'institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis que nous avons choisi aujourd'hui. Un ouvrage paru en 1975 et dans lequel Castoriadis critique la pensée politique marxiste et insiste sur la puissance créatrice de l'imaginaire collectif pour transformer la société. Et pour en parler, nous recevons Mireille Bruyère. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex de Toulouse. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Toulouse 2, membre d'Attaque et des économistes atterrés. Alors d'abord, qui est Castoriadis, cet économiste, philosophe et psychologue, psychanalyste grec, né en 1922 et mort en 1997? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
Oui, effectivement, il passe son enfance en Grèce et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il adhère au Parti communiste, mais il se trouve très rapidement en butte avec la frange stalinienne et menacé même physiquement par les staliniens et par les fascistes. Donc il va être marqué par cette première expérience. Il va fuir en France et il travaillera et il vivra en France jusqu'à la fin de sa vie. Donc je raconte cette première partie parce que effectivement son œuvre va être portée par le souci de dénoncer le totalitarisme quel qu'il soit, quelles que soient ses formes. Et on l'a connu pour une critique acerbe du libéralisme mais aussi du marxisme. Il fondera donc une revue qui a marqué les mouvements autour de 68 qui s'appelle Socialisme et Barbarie.
Il l'a créé en 1948.
Absolument, et qui se terminera en 1966 et dans lequel on verra Jean-François Lyotard par exemple, Claude Lefort, Guy Debord pendant une courte période, donc qui a animé effectivement un collectif de personnalités intellectuelles de l'époque qui questionne la question non seulement du marxisme, mais effectivement aussi du libéralisme.
Alors on va revenir sur cette critique du marxisme, Mireille Bruyère, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce livre, donc l'institution imaginaire de la société, et peut-être comment vous l'avez découvert tout d'abord ?
Je dois dire que je suis dans une famille de personnes plutôt militantes dans lequel les pratiques étaient souvent questionnées, quoi que nous fassions. Et j'ai entendu souvent dans les discussions cette question d'institué, d'instituant, donc de force instituante qui serait quelque chose d'émergent, qui vient en conflit de ce qui est déjà là, d'institué. Donc cette conceptualisation un peu m'a bercée. Effectivement, quand j'ai voulu écrire ce livre qui questionne la productivité, je me suis bien rendu compte que le livre de Castoriadis était incontournable pour essayer d'avancer.
Alors après avoir critiqué le stalinisme pour son totalitarisme, puis démontré les faiblesses de la bureaucratie trotskiste, Castoriadis donc bâtit sa charpente sur la faillite du marxisme. Quelle est l'originalité de sa critique du marxisme qui constitue la première partie de son livre « L'institution imaginaire de la société » ?
Oui, c'est dans le chapitre marxisme bilan provisoire qu'il a une critique très étendue en fait du marxisme tel qu'il est. Alors la première chose qu'il dit, c'est que pour lui, il n'est pas question de savoir si finalement l'Union soviétique est fidèle à la pensée de Marx ou pas. Il renvoie à Marx son propre argument en disant finalement la validité, l'évaluation d'une théorie, c'est l'impact que cette théorie a dans l'histoire. Et donc il regarde finalement ce que l'histoire et donc effectivement l'expérience de l'Union soviétique a fait du marxisme, et il essaye de comprendre dans la pensée de Marx qui est à l'origine de ces dérives totalitaires. Alors, il ne critique pas le marxisme comme le fait les libéraux en disant, finalement, le marxisme a établi un certain nombre de lois qui ne sont pas avérées, hein, la paupérisation, d'une certaine manière, la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Ce que je vais critiquer dans le marxisme, c'est sa signification politique, et ça, c'est très, très important de comprendre que, finalement, la pensée de Castoriadis est une pensée qui met au centre la question de la signification, qui va être en lien à l'imaginaire, je l'expliquerai tout à l'heure. Et en fait, fondamentalement, il dit dans Marx, il y a deux grandes choses. Il y a l'idée que finalement l'histoire se lirait comme la conséquence d'un développement autonome des forces productives, et donc la conséquence d'un déploiement de la raison, de l'industrie, de la science qui s'inscrirait dans les forces productives, hein, donc le développement de la productivité. Bon. Puis il y a une autre explication qui est plutôt contradictoire, qui dit finalement ce qui fait l'histoire, c'est les luttes, et en particulier les luttes des classes. Et pour Castoriadis, en fait, la première explication est dominante et a été reprise dans l'histoire, et c'est celle-ci qui pose problème, en ce sens qu'en fait, c'est comme si on expliquait l'histoire par quelque chose qui est extérieur au social historique, et donc on verrait la classe des prolétaires comme étant l'objet d'un sujet de l'histoire qui serait la science et les techniques.
Pour Castoriadis, il faut également casser le mythe de la neutralité de la technique, historique, ce que n'avaient pas fait les marxistes, qui était focalisé sur le renversement des rapports de production capitaliste.
Absolument. Pour Castoriadis, c'est ça, il le fait pas simplement dans le livre, il le fait dans un article qu'il a écrit pour l'Encyclopédie Universalis, qui s'appelle Technique, dans lequel il dit la technique n'est pas neutre. Effectivement, dans l'exemple trivial du marteau, on peut dire que le marteau peut être utilisé de manière très différente, mais la question qui nous est posée, c'est pas celle-ci. La question, c'est d'un système techno-scientifique, et ce système techno-scientifique est produit par le capitalisme dans les visées du capitalisme. Et donc, effectivement, on le voit à l'œuvre dans la plateforme, les évolutions actuelles de la digitalisation de la société montrent bien que ça va dans un sens plutôt d'une plus grande marchandisation plutôt que d'une libération, une émancipation de la société. Donc il critique aussi effectivement l'idée de la neutralité de la technique, parce qu'il dit qu'il ne s'agit pas de technique, il s'agit finalement de système technologique qui conditionne les finalités.
Alors, dans une biographie consacrée à Castoriadis, l'historien François Doss estime qu'il est l'un des rares intellectuels à résister à la condamnation de la perspective révolutionnaire. Mais que signifie la révolution chez Castoriadis ?
La question révolutionnaire est posée non pas comme un programme pour lui, mais comme une exigence. Et cette exigence, elle se pose comme une exigence d'articuler effectivement la question des pratiques, des luttes et la question des significations politiques de l'histoire. Alors, à la base de sa réflexion sur ce que c'est que d'être révolutionnaire, il y a l'idée d'imaginaire social.
Ce qu'il développe dans la seconde partie de son ouvrage, l'imaginaire social et l'institution. Quel est cet imaginaire social ?
Alors, il cherche en fait à dépasser la vision des sciences sociales sur l'institution. L'institution étant l'objet principal des sciences sociales, en économie d'ailleurs comme en sociologie. Il cherche à dépasser la vision fonctionnaliste des institutions dans les sciences sociales. Les sciences sociales se posent la question de savoir à quoi servent les institutions, qu'est-ce qu'elles font à la société, etc. Et lui, il dit, bon, effectivement, toute institution a une fonction, répondre à certains besoins, organiser la famille, organiser la concurrence, organiser les marchés, par exemple. Mais elle ne s'y réduit pas. Les institutions sont portées par un imaginaire qui, comme un ruisseau qui coulerait en dessous des institutions, continue de la transformer et font l'histoire des institutions. Et ce ruisseau, comme il appelle ça, l'imaginaire radical, c'est l'instituant. Et c'est justement avec cette conceptualisation de quelque chose qui est toujours là, qui vient travailler de manière relativement silencieuse, inconsciente, les institutions, transforme les institutions. Alors, pour le pire comme pour le meilleur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour lui, cet imaginaire social, c'est ce qui fait l'histoire, mais c'est ce qui fait l'histoire dans le pire. Par exemple, Hitler et le fascisme et le nazisme, et aussi le meilleur, dans les meilleures créations de l'humanité. Donc, parce que, justement, c'est la possibilité, c'est l'hypothèse que distingue, je dirais, l'homme du règne animal, c'est la possibilité de son imagination. Au centre de sa conception de l'homme, il y a l'idée que ce qu'il distingue des autres animaux, c'est que l'homme est capable d'imagination, c'est-à-dire de se donner ce qui n'existe pas. Et quand cette imagination, je dirais, s'agrège socialement, eh ben, on a la possibilité de créer de nouvelles institutions. Et pour lui, ces nouvelles institutions, c'est le germe de la révolution, et c'est le germe aussi de la liberté humaine. C'est-à-dire que c'est une liberté avant tout comme construction collective de quelque chose de nouveau.
C'est ça qui est important à souligner, peut-être, c'est que cet imaginaire social, qui est donc cette puissance de création et d'organisation du monde, dépasse la somme des psychés individuelles et ne peut émaner que du collectif.
Alors, il y a une articulation dans la pensée de Castoriadis entre la psyché individuelle et les imaginaires sociaux. Mais effectivement, cet imaginaire, au final, va s'imposer à chaque individu, en ce sens que cet imaginaire va s'incarner dans les institutions. Il ne réduit pas les individus à ce déterminisme de l'imaginaire social. Il dit les individus sont pas que des individus, il y a aussi une psyché, ils sont aussi des sujets. Et là, il se distingue par rapport aux sciences sociales en général, il se rapproche de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose résiste toujours, non pas dans l'individu, mais dans le sujet, du côté de sa psyché, quelque chose est irréductible, et cet irréductible, c'est source de création. Source d'imagination par les fantasmes, mais finalement, peut-être aussi source de changement, plus généralement, source d'histoire.
Et dans votre livre, L'insoutenable productivité du travail, vous proposez une analyse des institutions du capital et du travail qui est directement inspirée de ce concept d'imaginaire social. Et la conclusion que vous en tirez, c'est que la productivité du travail est une source d'aliénation qui mériterait d'être questionnée politiquement.
Oui, j'ai essayé un petit peu de m'inspirer de cette pensée pour, d'une part, essayer de comprendre les dynamiques institutionnelles qui sont derrière nous, 30 glorieuses et puis ensuite financiarisation, en posant l'hypothèse que ce qui a fait le compromis dit fordiste, et même au-delà, le compromis dans le capitalisme tel que nous l'avons connu, qui est organisé autour finalement du salariat, le salariat pour moi c'est un compromis autour de l'idée que ce qu'il fallait absolument préserver c'est la productivité. C'est la productivité du travail et donc, vous le savez, le salariat c'est subordination contre garantie collective. Les garanties collectives étant une autre répartition de la richesse créée par le travail, mais en laissant se déployer dans l'usine, dans les entreprises, etc., la recherche de la plus grande productivité. Donc, je fais l'hypothèse qu'effectivement, ce concept de productivité n'est pas questionné, doit toujours être là comme étant le fondement de la société de tout temps. Ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, cette productivité a de plus en plus de mal à s'incarner concrètement. La baisse des gains de productivité est au centre, en fait, de mon questionnement au départ, parce que ça rencontre de plus en plus le réel. C'est-à-dire que cette dimension imaginaire qui fait l'histoire du capitalisme rencontre de plus en plus les limites écologiques et anthropologiques, hein, c'est-à-dire la capacité des êtres humains de travailler dans des usines de plus en plus aliénantes, même dans les services, on le voit avec la montée de la souffrance au travail, on touche les limites de cet imaginaire, et ce que je dis, c'est que finalement, pousser plus loin la productivité, c'est vouloir faire apparaître quelque chose d'imaginaire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus irréel, de plus en plus embuté avec les limites écologiques et anthropologiques. Et c'est ça qui est insoutenable.
Pour conclure en quelques mots, Mireille Bruyère, à qui conseilleriez-vous ce livre et surtout peut-être pour quelles raisons faut-il le lire selon vous ?
Écoutez, ce qu'on entend un peu partout sur l'urgence écologique et sociale me paraissent montrer l'urgence l'intérêt de lire Castoriadis actuellement. J'écoutais hier à France Inter un débat sur présenté par la journaliste en disant qu'est-ce que nous pouvons faire, quels sacrifices nous sommes prêts à avoir pour éviter la catastrophe écologique. Et très justement, quelqu'un lui disait, mais c'est pas de sacrifice dont il est question, mais c'est de changer les modes de vie pour vivre mieux. Et je pense que ça signe un petit peu la pensée de Castoriadis, c'est-à-dire ça dépend de la façon dont nous voyons, dont nous signifions ce qui est en train de se passer. Nous pouvons dire, effectivement, nous devons nous contraindre, nous empêcher dans les consommations, dans les modes de déplacement, etc. Mais nous pouvons aussi le voir d'une autre manière en disant « c'est une chance ». C'est une chance, ces limites qui apparaissent. C'est une chance pour vivre autrement et pour vivre mieux. C'est une autre signification que nous donnons effectivement aux limites.
Merci beaucoup Mireille Bruyère, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 2. Je rappelle votre ouvrage « L'insoutenable productivité du travail » publié aux éditions du Port de l'Eau. Un grand merci.